Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonresources.gouv.fr/collectivité.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Jean-Baptiste, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, Jean-Baptiste Camp. Donc, vous êtes le président de Videolan, qui est le fameux éditeur de VLC. VLC, bah voilà, ça parle quand même à beaucoup, beaucoup d'entre nous depuis de très nombreuses années. Moi, je me souviens que c'était grâce à vous sur le PC. À l'époque, on pouvait regarder toutes les vidéos. À l'époque, il y avait Windows Media Player, c'était une usine à gaz, ça marchait pas, etc. Et puis VLC, on téléchargeait très facilement, très rapidement, et on lançait n'importe quelle vidéo, n'importe quel son, ça marchait. C'était ça un peu la spécificité. Rappelez-nous un petit peu votre parcours, parce que VLC a été fondé, je crois, en 1996. Vous en êtes pas le fondateur, le cofondateur, vous êtes le président de VLC aujourd'hui.
En fait, il n'y a pas de créateur à VLC. Donc ça, les gens, ils n'aiment pas trop, parce qu'ils aiment bien avoir un héros.
Il n'y a pas d'incarnant, en fait.
En fait, moi, j'ai créé l'association Videolan.
Ok.
En 2007, et ça fait depuis 2007 que je gère et que j'ai fait croître le logiciel à ce qu'il est aujourd'hui. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de créateur, parce qu'à l'origine, c'est un projet étudiant qui est un projet un petit peu compliqué et qui était pour faire un nouveau réseau à l'école centrale Paris. Ils avaient besoin d'une justification pour acheter un nouveau réseau. Ouais. Et donc, ils se sont dit, si on mettait de la vidéo sur un réseau, on aura besoin d'un réseau plus rapide. Et c'est dans les années 95-96, on est avec des 486 DX à 65 MHz. Donc vraiment, on est habitué à faire de la télé sur des décodeurs énormes. Et donc, en fait, c'est un projet complètement fou. Et le projet... Mais ils avaient besoin d'un nouveau réseau, ils voulaient faire un nouveau réseau, ils lancent ce projet. Et ce projet, il aurait pu s'arrêter là, en 98. Et en 98, fin 98, début 99, il y a quelques développeurs, mais qui sont même pas la première équipe, oui, qui se disent, si on réutilisait ça et si on lançait ça, parce qu'il y a d'autres gens qui vont vouloir faire de la vidéo sur IP, vidéo sur un réseau local.
Et à l'époque, personne ne connaissait VLC. C'est cette nouvelle équipe qui l'a
même
boosté.
Pas. À l'époque, en fait, le VLC n'existe même pas. C'est tout un logiciel qui s'appelle Videolan. Il y a un client qui s'appelle Videolan Client, qui deviendra VLC, c'est là d'où viennent les lettres. Il y avait un serveur qui s'appelait VLS, et puis il y avait plein d'autres, notamment plein de choses sur le réseau, sur les routeurs. Donc c'était vraiment une solution complète de streaming vidéo avant l'heure. Et c'était pas encore open source. L'école centrale ne voulait pas à l'époque, enfin ne se comprenait pas l'open source. On peut pas leur en vouloir en 97. Et en 2001, l'école centrale le rend open source, et là c'est là que ça croît. Et moi j'arrive à Centrale en 2003, donc 2 ans après la passage en open source. À ce moment-là, je fais partie de l'équipe du réseau. Et à un moment, en fait, cette association d'étudiants, en fait, VLC est trop gros, devient trop gros. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est le travail justement de sortir VLC de l'école Centrale Paris et devenir quelque chose un peu plus professionnel.
Tout à fait, avec un business aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, vous allez nous raconter comment ça marche. Juste un chiffre, toute version et tout support confondu, VLC a dépassé les 5 milliards de téléchargements.
Alors oui, c'est exact, mais c'est une sous-estimation très très forte. C'est 5 milliards sur notre site web. Comme c'est gratuit et comme c'est open source, évidemment, il y a...
Plein de gens qui se l'ont téléchargé.
Bien sûr, sur n'importe quel portail, télécharger.com, 01.01.01.net et toutes ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'il y a 5 milliards d'utilisateurs de VLC. Aujourd'hui, on pourrait se dire qu'il y a entre 400 et 600 millions d'utilisateurs réguliers de VLC.
Ce qui est beaucoup déjà.
Bon, ce que je dis, c'est VLC, c'est le logiciel français le plus utilisé au monde.
Ouais.
Et le moins rentable. mais c'est vrai, en fait...
Vous avez tout résumé, là, avec cette histoire-là.
En fait, c'est monstrueux, mais en même temps, ça n'aurait pas été gratuit. Est-ce que ça aurait succès ?
C'est ça.
Mais après, bon, il y a beaucoup de gens qui font des logiciels gratuits et qui ne sont pas succès. En fait, VLC, et c'est comme vous l'avez dit, les gens l'utilisent parce que ça marche.
Ouais. Et parce que c'est simple.
Et parce que c'est simple. Et aujourd'hui, vous utilisez VLC tout le temps, alors ici dans les plateaux de télé, donc évidemment partout, mais en fait beaucoup de gens utilisent le moteur de VLC et un autre moteur qui est dans VLC qui s'appelle FFmpeg et qui fait tourner toute la vidéo, tout ce que vous voyez sur YouTube, tout ce que vous voyez sur Netflix, etc. Tout ça, c'est des technologies open source qui sont liées au projet VLC.
Incroyable, ce qui permet de lire n'importe quel fichier vidéo sur VLC. Quand sur VLC ça marche pas, ça en général on sait que c'est compliqué.
Alors c'est ça qui est pas fou. Toujours vrai, mais c'est vrai que en fait dans beaucoup d'endroits, si ça marche pas dans VLC, c'est que le fichier est cassé.
Mais c'est ça, en gros c'est ça. Juste, vous avez dit que vous êtes le logiciel français le plus téléchargé au monde, mais qui gagne pas d'argent. C'est quoi le modèle économique justement
C'est simple, il y en a pas.
Il n'y en a pas, d'accord.
Donc en fait, VLC est édité par une association, loi 1901, tout ce qu'il y a de plus française, qui vit de, des dons sur le site web. On y va, il y a un petit bouton pour payer. Et voilà.
Là, écoutez, profitez-en. Hein. Y a des gens qui vous écoutent et qui vous regardent.
Alors, ceci étant dit, moi j'ai plusieurs business autour de VLC, qui sont des petites sociétés en fait qui font plutôt du conseil, de l'intégration et qui doivent employer, en tout cas les sociétés que moi j'ai, c'est une cinquantaine de personnes et qui font que du travail autour de VLC et des technologies open source.
C'est intéressant ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit si, de toute façon on ne sait pas, peut-être que si VLC avait été payant ça n'aurait pas marché. Ça veut dire qu'il n'y a pas de modèle économique sur un lecteur vidéo comme ça,
en fait, c'est
même s'il est le plus populaire, l'un des plus populaires au monde.
C'est très compliqué. En fait, aujourd'hui, il n'existe pas de modèle, de business model B2C open source. Tous les business autour de l'open source et du logiciel libre sont autour de soit des outils, en fait, vraiment, des frameworks, du Python, d'IA, du Redis, des bases de données, soit de l'hébergement, de SaaS. Donc il y a plein de SaaS open source, mais en fait, c'est beaucoup plus facile de payer que de l'héberger soi-même. Mm-hmm. Mais pour du B2C ou du B2Pro, c'est très difficile. Parce que, en fait, sortir sa carte bleue, c'est difficile. Donc certains arrivent à payer en faisant des dons. Mais c'est très difficile sur VLC. Et puis surtout, le lecteur vidéo, on y passe un peu moins de temps que son navigateur qu'on a customisé. Donc en fait, on peut switcher de l'un à l'autre.
Mais quand vous disiez tout à l'heure que il y a le B2B notamment, vous auriez pas pu vendre votre lecteur, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, hein, à Netflix. Ça aurait pas pu être une bonne un bon deal
par exemple, pour être très honnête, hein, j'ai parlé de des sociétés qui font du consulting autour de VLC, FFmpeg et d'autres technologies open source vidéo. Soyons très clairs, hein, mais les gens, enfin ce que je fais, c'est de la R&D pour Netflix, pour Google, pour Amazon, pour Facebook. Hein, c'est-à-dire que toute cette partie-là, mes clients sont les
GAFA. Et vous êtes reconnu pour ça?
Ouais. Moi, j'ai pas. J'ai quasiment aucun business en France. J'ai peut-être moins de 4-5% de mon business.
Mais les Netflix, les Google, les Meta.
Tout à fait, Meta.
D'accord. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'ils arrivent à améliorer toutes les compressions vidéo pour que ça prenne le moins de bande passante, parce que c'est toujours ça en fait aujourd'hui le problème, c'est la qualité, on devient de plus en plus exigeant, on est à la 4K, mais il faut faire attention, il y a une certaine frugalité de la bande passante, etc. L'idée, c'est de trouver la compression idéale par rapport à la qualité.
Alors c'est exactement ça. Bon, la 4K c'est un peu has-been, hein. Là on est les JO de Paris, on parle 8K, HDR, faire une démo 4K en 2024 c'est un peu has-been, mais oui, c'est exactement...
Non, mais je parlais de Netflix qui est en 4K.
En fait, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, il y a toujours des nouveaux codecs, des nouveaux formats de compression. Il y en a un qui est sorti cette année, il y en a plusieurs qui sortent l'année prochaine. Donc, on a besoin de plus de compression, plus de définition. Et surtout, en fait, le problème, c'est que c'est très très compliqué, parce que chaque nouveau format, ça rajoute pas un format de plus, ça rajoute toute la combinatoire avec tous les formats précédents, et donc en fait c'est un monde qui est non seulement très compliqué mais aussi très complexe. Donc faut connaître beaucoup de choses, et la connaissance, la véritable connaissance de toutes ces technos, c'est peut-être une quinzaine de personnes en France, une quinzaine aux États-Unis et quelques-uns en Chine. Donc il y a vraiment pas grand monde qui est vraiment là pour développer. Et donc, ils ont besoin de nous.
Mais VLC, qui développe les mises à jour de VLC? Ce sont des ingénieurs qui sont payés ou qui font ça pour le plaisir?
Eh bien, ça dépend. En fait, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, que moi, j'emploie dans mes sociétés. Et puis, il y a des gens, ils font ça parce qu'ils sont étudiants, parce qu'ils pensent que c'est intéressant. Et la plupart du développement de VLC, pendant moi, la plupart du temps où j'ai développé sur VLC, parce que je dois être un des plus gros contributeurs, je le faisais sur mon temps libre, le soir et le week-end. Voilà. Et en fait, c'est une formation incroyable. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à gérer VLC quand j'avais 24 ans. Évidemment, techniquement, c'est très compliqué, mais en fait, tout ce qui est autour, c'est un MBA accéléré de gestion de open source.
Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des projets, comme par exemple proposer, alors c'est ce qu'on a lu sur le web ces derniers jours, des chaînes de streaming gratuites.
Tout à fait. En fait, aujourd'hui, on bosse sur plein de trucs dans VLC. Malheureusement, je sais jamais quand ça sort, parce que ça sort quand nous on est assez contents, parce que j'ai pas de département marketing qui me dit quand est-ce qu'il faut que ça sorte. Mais effectivement, on travaille sur plusieurs choses. Évidemment, être sur le Vision Pro, on a beaucoup de choses en IA qu'on va essayer d'intégrer de l'IA dans VLC. Un petit peu compliqué à faire, parce qu'on a des problématiques un peu différentes des autres.
Mais ça peut être quoi l'IA dans VLC? Vous pouvez nous donner un exemple?
Sous-titres automatiques et traduction automatique. Mais sans utiliser ce que font tout le monde, c'est-à-dire sans utiliser un service hosté. Moi, je veux que tout soit fait en local sur la machine, pour pas qu'il y ait une dépendance à un service qui un jour, comme tous les services propriétaires qu'on voit, qui un jour s'arrête. Donc c'est un petit peu compliqué à faire. Effectivement, les chaînes de télé, c'est un vrai sujet.
Et ça arrivera, ça. Le sous-titrage par l'IA, c'est dans le pipe. C'est obligé.
C'est obligé, enfin... Ouais. Enfin, c'est même pas une question en fait. La question c'est pas est-ce qu'on va le faire, la question c'est quand. La version elle marche très bien sur mon ordi. Quand est-ce qu'on arrive et on le distribue à des centaines de millions de personnes? Ça c'est la question. Sur la partie chaîne de télé, effectivement, il y a de plus en plus de chaînes, il y a de plus en plus de contenus, que ce soit des chaînes de télé, des web radios, des podcasts, du Twitch, d'Amazon, etc. Et c'est une marée de contenus.
Ouais. Il y a évidemment. C'est compliqué de compiler tout ça. D'avoir une espèce de carrefour où on pourrait retrouver tous ces liens finalement.
C'est très compliqué et surtout il y a beaucoup de choses qui ont besoin en fait de visibilité, qu'on appelle des chaînes fast ou de ce qu'on appelle de la VOD. Et donc comment je vais les trouver? Et il y a plein de gens en fait qui se rémunèrent en fait par la publicité qui est à l'intérieur du flux et donc ils seraient juste ravis en fait que on puisse diffuser leur chaîne.
Et vous récupéreriez un petit peu d'argent au passage?
Là la question elle est même pas là, là c'est juste. Alors peut-être, c'est très bien, mais là le besoin c'est surtout de se dire que il faut briser le monopole de quelques plateformes qui ont l'accès et le contrôle de l'ensemble des chaînes de télé.
Vous l'avez évoqué brièvement, le Vision Pro, c'est votre nouveau terrain de jeu.
Oui, enfin c'est
excitant
fini,
de développer
déjà.
Un lecteur vidéo comme ça pour la VR.
Alors c'est sûr, c'est que la VR, c'est vraiment le rêve toujours qu'on fait de la 3D, de la vidéo. Ça fait des années qu'on en parle. Pour moi là, c'est déjà la troisième génération de VR où tout le monde s'excite. Et puis en fait, il en ressort pas grand-chose. Là, c'est Apple, donc on fait un peu plus confiance qu'ils vont réussir à faire quelque chose. En particulier parce qu'ils ont quand même beaucoup de fans. VLC, ça marche très bien sur le Vision Pro. On est en test pour les gens qui veulent tester et ça marche. Que ce soit le streaming, la vidéo, l'audio, tout ça.
Et la prochaine étape, après, c'est quoi?
En fait, ça commence à être compliqué parce qu'on est un peu partout, on est sur plus. Ce qui est rigolo, c'est que VLC, c'est pour plus de plateformes que Microsoft, ouais. Que Office, que les...
Sur les téléconnectés, ça aura un sens d'avoir VLC?
Mais on a déjà VLC sur les téléconnectés. Okay. Et d'ailleurs, beaucoup, comme je disais, beaucoup de technos, en fait, qui sont sur les téléconnectés, sur vos smartphones.
Sont issus de
VLC, utilisent la techno de VLC sans forcément le savoir.
Eh bien, merci beaucoup, Jean-Baptiste Kampf.
Merci.
D'être passé par le plateau de Tech&Co. Vous êtes le président, donc, de Videolan, éditeur de VLC. C'est